Alors je vous propose pour ce matin d'entendre l'histoire de la rencontre entre Nathan et David. Alors vous connaissez sans doute l'histoire parce qu'elle se retrouve même dans la généalogie du Christ, puisque l'on nous dit que David eut Salomon de la femme d'Uri. Effectivement, Salomon avait trouvé Bethsabée assez jolie, et pour se débarrasser du mari, il l'avait envoyé se faire tuer à la guerre. Alors il ne se rendait pas compte finalement de cette faute, et Dieu envoie Nathan pour essayer de faire prendre conscience à David de ce qu'il est. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et il lui dit : Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, si ce n'est une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan : L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi ainsi sans ménagement. Alors Nathan dit à David : Tu es cet homme-là. Ensuite, je voudrais vous lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les 12 premiers versets, où Paul relit l'histoire des Hébreux. 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher, c'était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, nous dit Paul, ce sont là des allégories pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez donc pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par des serpents brûlants. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'allégorie et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 6, un passage où lui aussi, Jésus, relit l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire des Hébreux, d'une manière un peu allégorique. C'est au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 47. En vérité, nous dit Jésus, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors les Juifs se querellaient entre eux et disaient : Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a maintenant la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain vivant descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères dans le désert, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que dit Jésus alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent : Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose maintenant, pour commencer à méditer intérieurement sur ces paroles de l'Écriture, le cantique numéro 315, les strophes 305, ce serait 305, voyons voir. Non, c'est bien le 315. L'Éternel seul est ma lumière. L'Éternel seul est ma lumière, les quatre premières strophes du cantique 315 dans le recueil bleu. Nous prions Dieu. Ô Seigneur, tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans la fidélité. Ouvre nos intelligences et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole. Qu'elle nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer. Qu'elle nous donne à la fois de la paix vraiment dans notre cœur et un enthousiasme pour vivre et pour faire vivre. Que ta parole crée en nous un cœur de chair, un cœur capable de t'aimer, toi, notre Créateur, notre Père, et un cœur aussi rempli d'affection pour ces frères et sœurs qui nous entourent et qui nous sont confiés. Alors dans cet épisode de la Bible, le prophète Nathan apporte à David deux types de paroles bien différents. Nathan commence d'abord par raconter une petite histoire de berger et de moutons, c'est un premier type de parole. Nathan dit ensuite à David, « Cet homme, c'est toi ». Et nous avons là un second type de parole finalement, qui nous permet de comprendre en quoi la première parole nous concerne en particulier. Le texte de la Bible appartient très souvent plutôt au premier type de parole. C'est le cas, par exemple, quand Jésus raconte lui aussi une petite histoire, une parabole, comme celle que nous proposait la famille de Pauline tout à l'heure. Jésus ne nous raconte pas cette histoire pour nous distraire, mais parce que l'histoire racontée nous concerne, et c'est ensuite à nous de chercher quel homme nous sommes en réalité à la lumière de cette histoire. Et ce n'est pas toujours facile finalement de découvrir quel homme nous sommes à travers cette histoire, car les paraboles de Jésus sont souvent assez riches, avec de multiples aspects passionnants et très souvent assez dérangeants. Alors le texte de la Bible appartient aussi au premier type de parole quand il raconte l'histoire de David, par exemple. Là non plus, ce n'est pas pour nous distraire qu'on nous raconte ça. Bien souvent, la manière dont nous pourrions ensuite nous approprier cette histoire n'est pas très simple. Bien souvent, la seconde parole, « Cet homme, c'est toi » qui nous permettrait de nous approprier ce texte, n'est pas inscrite explicitement dans la Bible, car ce serait une façon bien simpliste de tirer la morale d'une histoire. Par exemple, sur la base de cette histoire de David et de Nathan, le sens le plus utile ne sera pas le même selon les circonstances particulières de la vie de chacun. Il sera parfois bien utile de s'identifier à David. D'autres fois, ce sera utile de s'identifier à Nathan et de se sentir envoyé par Dieu pour aider quelqu'un à prendre conscience de quelque chose qui ne va pas dans sa vie, d'un mal qu'il a fait. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que moi, je suis le Nathan de telle personne particulière pour telle raison ? Eh bien, peut-être que non. Dieu ne fait pas de nous des redresseurs de torts professionnels. Il y a parfois des choses qu'il est plus utile de laisser passer à un certain moment. Ça dépend, ça demande un discernement, ça demande un amour aussi très, très profond. Alors ce que l'on appelle la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du premier type, celle qui est dans la Bible ou dans notre bouche quand nous parlons, comme ce matin je le fais pour vous. Mais la parole de Dieu, c'est plutôt cette seconde parole qui est infiniment particulière pour chacun de nous à chaque moment de notre existence. Et c'est cette seconde parole qui nous ouvre à une nouvelle façon de nous voir nous-mêmes, de voir le monde qui nous entoure et qui nous invite à évoluer, à cheminer avec l'aide de Dieu. Ce David qui ne voit pas où il en est, c'est évidemment en partie nous-mêmes. Et comme David, nous avons souvent besoin d'une aide extérieure pour voir les choses d'un point de vue plus objectif. Nous avons donc besoin d'une première parole qui nous décentre, qui nous raconte une histoire qui n'est pas la nôtre finalement. Et puis ensuite, nous avons besoin d'une seconde parole qui fasse le lien. Une seconde parole qui nous dit, eh bien voilà, cet homme, c'est toi. Alors la lecture de la Bible a vraiment fait ses preuves comme premier type de parole. La réflexion personnelle et la prière nous permettent d'entendre la seconde parole et de saisir un peu mieux qui nous sommes et ce que nous pourrions être un peu plus avec l'aide de Dieu. L'histoire de Nathan et de David n'est pas écrite pour nous renseigner sur la vie de l'homme David dont nous n'avons objectivement pas grand-chose à faire 3000 ans après. Mais cette histoire nous est racontée pour être pour nous une parole du premier type. Et donc cette histoire de David et de Nathan, elle joue pour nous le rôle que joue pour David la petite parabole, la petite histoire que lui invente Nathan. Même si cet épisode de David est probablement basé sur un fait historique, l'histoire est écrite pour que nous la lisions absolument comme une parabole, comme si c'était un conte théologique et moral, afin ensuite de faire le juste lien qui va nous permettre d'avancer. On voit bien cet effort de réécriture, de pédagogie dans le psaume 51 que je vous ai lu tout à l'heure dans la confession des péchés, dans la prière de repentance. Psaume très connu, psaume que David a vécu après avoir justement pris conscience de sa faute en ayant fait tuer Uri, la femme de Bethsabée, et en ayant pris Bethsabée pour sa femme. Eh bien, dans ce psaume 51, nous voyons quelque chose, je crois, de particulièrement intéressant. Tout ce qui est particulier à la vie de David a été rassemblé dans les premiers versets du psaume, et la suite du psaume est, tout le monde peut s'identifier avec la suite du psaume. Normalement, la prière de David devrait être truffée de références au mal qu'il a fait et qu'il ronge finalement de remords, les irréparables dégâts qu'il a provoqués, comme la mort de cet homme Uri, et puis les dégâts qu'il a causé à Bethsabée, bien entendu, en provoquant ces deuils terribles. Eh bien non, dans la prière qui nous est donnée, dans le psaume 51, pour nous aider à nous reconnaître dans cet homme qui prie, les circonstances particulières touchant à la vie de David ont été enlevées, rassemblées dans le début du psaume. Voilà le début de ce psaume. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bethsabée. Deux points, ouvrez les guillemets. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface ma faute, lave-moi, purifie-moi de mon péché, car oui, je connais ma faute et mon péché est constamment devant moi. Tout dans la suite du psaume s'applique à David, bien sûr, mais s'applique parfaitement à la vie de chacun d'entre nous Et c'est à chacun de relire ce psaume, de le vivre finalement, afin de reconnaître enfin chacun ses propres fautes, ses propres faiblesses devant Dieu, non pour se culpabiliser, mais afin de s'ouvrir à l'aide de Dieu et avancer. Et donc la Bible joue ainsi un rôle d'une importance immense, car nous avons 1000 bonnes raisons qui nous empêchent de voir l'homme, la femme que nous sommes en réalité. Le riche propriétaire de la parabole de Nathan est persuadé de faire le bien puisqu'il sacrifie la brebis pour exercer l'hospitalité. David, lui, n'a fait qu'envoyer telle personne à la place d'une autre dans une mission dangereuse, c'est son devoir de chef de l'armée, et il n'a pas conscience d'avoir assassiné quelqu'un pour lui prendre sa femme. Nous sommes un peu tous comme ça, les yeux bandés. La parole extérieure qu'est la Bible nous permet de réfléchir comme David à partir de cette petite histoire de brebis, et peut-être alors que nous pourrons prendre conscience du « cet homme, c'est toi » que Dieu nous dira, en particulier au plus profond de notre cœur, quand il le jugera utile, de la plus juste des façons pour nous permettre d'avancer d'un pas. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul nous propose de relire l'histoire des Hébreux à travers le désert. Cette histoire n'est pas une parabole ou un conte théologique pour Paul, mais selon lui, elle fonctionne comme une parabole. Paul va même jusqu'à dire que ces choses sont arrivées aux Hébreux pour servir d'allégorie. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, maintenant. C'est-à-dire, Paul dit que l'histoire de ce peuple hébreu a été écrite pour nous, qu'ils ont vécu ça pour nous. L'esclavage des Hébreux parle de ce qui nous enchaîne, nous. Leur faute nous parle des nôtres pour nous ouvrir les yeux dessus, que nous nous convertissions et que nous vivions. Leur traversée de la mer Rouge nous parle du baptême, nous dit Paul, de notre baptême. La nuée qui les guidait et leur révélait la loi nous parle de la présence de Dieu pour nous, qui nous donne sa parole au plus profond de notre être. Et la manne qui tombait du ciel pour les nourrir, c'est la même nourriture spirituelle que nous mangeons maintenant en Christ. Et même, nous dit Paul, le rocher qui les suivait, oui, vous avez bien entendu, le rocher qui les suivait dans le désert, c'était le Christ, évidemment. C'est comme cela que Paul lit la Bible, car c'est pour qu'on la lise comme ça qu'elle a été écrite. Il y a 3000 ans, il y a 2500 ans, il y a 2000 ans aussi. C'est comme cela que Paul lit la Bible, et c'est comme ça qu'on doit la lire. Le Christ n'était pas caché sous un rocher en carton pour pouvoir apparaître quand Moïse tapait dessus avec son bâton pour qu'une source jaillisse. Bien sûr que ce n'est pas littéralement le cas. Mais cette célèbre histoire des Hébreux est relue comme une allégorie de ce qui nous est donné en Christ. Il est la présence de Dieu qui marche à nos côtés, présence bien réelle et solide, comme un roc, comme l'Éternel est notre rocher. Et effectivement, cette présence solide, présence de Dieu, nous accompagne dans nos déserts, nous donnant de l'eau sur notre route vers son royaume, vers la vie éternelle qui nous est donnée. Eh bien, ce Dieu qui fait jaillir en nous la source de la vie nouvelle, de la vie éternelle, c'est ce même Dieu, le Dieu de toujours, qui accompagnait déjà les Hébreux et leur donnait la parole qui libère, la parole qui nourrit, qui oriente, qui pacifie, qui accompagne. Et quand Paul parle de Jésus comme d'une source bien réelle qui nous accompagne, ce n'est pas pour lui de la théologie abstraite ou un conte pour enfants, mais c'est une réalité qui a complètement réorienté son existence dans sa vie de tous les jours. Et effectivement, sur le chemin de Damas, il a vécu une expérience mystique et théologique essentielle dont il parle, dont il témoigne à plusieurs reprises, mais dont il parle là aussi, finalement, à travers cette référence aux Hébreux. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire que tout cela est arrivé aux Hébreux pour que cela nous serve de parabole. Cela revient à dire que la Bible a été écrite pour nous, et même que les événements qui sont racontés sont arrivés pour nous apprendre qui nous sommes en réalité et le salut que Dieu nous offre en Christ. Donc le véritable héros de la Bible, c'est chacun de nous. Chaque épisode parle de l'homme que nous sommes en réalité, maintenant, dans notre vie. Alors cette lecture allégorique de l'Écriture n'est pas inventée à l'époque de Paul, mais la Bible a tout simplement été écrite pour qu'on la lise ainsi, pour nous parler de nous. C'est pourquoi cette Écriture est transmise de génération en génération. C'est pourquoi la fête de Pâques ou de Pentecôte, par exemple, sont célébrées chaque année de génération en génération. C'est pour que cette histoire du peuple hébreu soit sans cesse réinterprétée par chacun de nous, afin de rendre possible le choc de la seconde parole sur notre propre état, pour nous mettre en route, nous mettre en chemin vers le royaume de Dieu. Oui, nous pouvons donc nous reconnaître dans ces personnes qui sont nourries miraculeusement dans le désert par Dieu. Mais il y a même bien plus que cela, nous dit Paul, parce qu'entre-temps, le Messie est arrivé en Jésus de Nazareth, et que nous sommes donc maintenant, comme dit Paul, dans la phase ultime de l'histoire, le temps où ce qui était semé depuis des générations arrive enfin à maturité. L'histoire des Hébreux n'est pas simplement un exemple de ce que nous vivons, mais c'est plutôt l'inverse. Ce qu'ont vécu David ou les Hébreux, nous dit Paul, ce ne sont que de simples signes précurseurs d'une réalité qui est immense, qui dépasse infiniment ce qu'ont vécu les Hébreux. C'est ce que Dieu nous donne maintenant en Christ, ce que Dieu donne maintenant en Christ à l'humanité tout entière. C'est ce que dit l'Évangile selon Jean aussi, pour cette même question finalement de la nourriture qui est donnée aux Hébreux dans le désert, donc là encore dans une relecture allégorique de cette histoire des Hébreux. L'Évangile selon Jean insiste même à deux reprises pour faire ce parallèle, nous disant « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts ». Ce qu'ils ont mangé, ce n'est donc pas réellement le pain vivant venu du ciel. Mais ce pain qui est allé dans leur ventre, il évoquait seulement le pain venu du ciel en Christ. Ce pain qu'est le Christ en fait. Pain qui n'apporte pas une simple survie d'une journée comme la manne, mais qui apporte la vie éternelle, la vie qui dure pour l'éternité, ce qui n'est pas une petite différence. Jésus n'exclut pas d'ailleurs que les Hébreux puissent avoir mangé par ailleurs le pain du ciel, comme le suggère Paul dans son interprétation, où l'eau qu'ils buvaient était déjà l'eau vive donnée par le Christ, l'eau spirituelle. Et donc peut-être qu'effectivement, par ailleurs, ils ont mangé le pain spirituel qu'est la parole de Dieu manifestée en Christ d'une autre façon. Paul et Jésus comprennent donc spirituellement l'histoire des Hébreux dans le désert. Et Jésus d'ailleurs insiste, les paroles, il faut les lire, il faut les comprendre comme esprit et non pas littéralement. Dieu a individuellement pour chaque personne le juste, cet homme, c'est toi qui va nous permettre de comprendre en quoi l'histoire racontée est une allégorie pour notre propre existence, qui va nous permettre de faire ce rapprochement fécond entre cette histoire ancienne ou cette parabole et les circonstances particulières de notre vie. Jésus utilise ce même procédé quand il tente d'expliquer comment Dieu offre son salut à l'homme. Comment parler avec notre langage de cette réalité nouvelle qu'est l'Esprit, par définition invisible. Jésus n'est pas tellement usager de la langue abstraite des philosophes grecs. Non qu'il en soit incapable, je crois qu'il était assez érudit dans la philosophie de Platon. mais il n'utilise pas tellement ce langage. Il préfère utiliser un langage concret, peut-être parce que la Bible est sa langue maternelle, finalement, racontant des histoires, mais aussi parce que le salut de Dieu n'appartient pas seulement au monde des idées. Ce n'est pas seulement une sagesse, mais c'est une expérience vécue par l'homme. C'est un événement, c'est une rencontre. C'est quelque chose d'aussi concret qu'un corps nourri par du pain, ou une graine qui est plantée en terre et qui germe, ou une brebis qui est portée par une brebis, par un berger. Voilà donc Jésus qui explique qu'il faut manger sa chair pour avoir la vie éternelle. On aurait préféré, oui bien sûr, avoir un discours théologique, philosophique, qui nous rendrait plus à l'aise que cette image, cette allégorie finalement. Mais c'est ça qu'il choisit d'utiliser. Il faut manger sa chair pour avoir la vie éternelle, comme les Hébreux ont mangé la manne dans le désert pour survivre et pour cheminer. Jésus pensait pouvoir être compris par ses auditeurs, habitués bien sûr à lire la Bible allégoriquement. Certains l'ont compris et c'est pourquoi nous avons encore ce texte, heureusement. D'autres, on le voit dans le récit, passent à côté et ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, à mon avis, ce que dit Jésus, et ils demandent comment on pourrait lui croquer un bras ou une jambe, comment est-ce que ça pourrait être possible. À mon avis, c'est plutôt de l'ironie. Parce que dans la culture de l'époque, c'était facile de comprendre de quoi il parlait, qu'il parlait de façon allégorique. D'autant plus que dans l'araméen que Jésus utilise pour parler à ses contemporains, il fait un jeu de mots qui rend plus évident encore qu'il faut comprendre spirituellement ses paroles et non pas littéralement. En effet, en hébreu, un même mot signifie à la fois la chair et l'évangile, la bonne nouvelle. Et donc quand Jésus nous dit « mangez ma chair », il pourrait tout aussi bien dire « mangez mon évangile », c'est-à-dire « prenez-le, mâchez-le, assimilez-le et que ça devienne votre force pour aujourd'hui et pour demain ». Ce que Jésus offre au monde pour qu'on le prenne, pour qu'on le mange, pour qu'on l'assimile, ce n'est pas les protéines de son corps, bien entendu, ce n'est pas de la matière, mais c'est sa vie qui est bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, bonne nouvelle offerte au monde. Et effectivement, ce monde, le peuple, c'est nous, c'est toi, nous dit Nathan, nous dit Paul, nous dit Jésus. Et donc c'est à chacun de nous que le Christ se donne ainsi à manger pour nourrir notre être et qu'ainsi nous ayons la vie éternelle. Grâce lui soit rendue. Amen.